Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. Ces paroles, nous les connaissons bien, ces paroles de la Transfiguration, qui sont plus que de simples paroles. C'est une injonction, comme un commandement, que Dieu le Père fait à ses trois apôtres réunis, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jacques, mais à travers eux, évidemment, c'est à tout le monde. Cette injonction, elle est intéressante parce qu'elle résonne vraiment en écho à cette injonction biblique, aux paroles qui ouvrent la révélation des commandements de Dieu. Écoute Israël, Audi Israël, Shema Israël en hébreu. Et ce verbe justement, Shema en hébreu, donc la langue de notre Seigneur, la langue biblique, ce ne signifie pas une simple écoute, attention distraite, c'est une écoute qui engage, qui transforme, qui écoute vraiment, se laisse enseigner, se met en mouvement. Il est d'ailleurs intéressant de constater, et les oblats du prieuré le remarqueront évidemment, que Saint Benoît commence sa règle, son prologue, en employant les mêmes termes « écoute ». Ô mon fils, là avec un autre verbe latin, pas simplement audite, audire, il dit obsculta, qui renforce cette idée. Et à la fin de ce premier paragraphe du prologue, il lit l'autre idée dans ce fait d'écouter, l'idée d'obéir. Reçois l'avertissement d'un père plein de tendresse et mets-le en pratique. Nous avons donc ces deux idées qui se trouvent dans la tradition biblique, dans la tradition scripturaire, bien sûr. On ne va pas passer en revue toutes les occurrences, mais par exemple dans le Nouveau Testament, en particulier dans les Actes des Apôtres, il y a plusieurs discours qui sont rappelés de Saint Pierre ou de Saint Paul et qui commencent aussi avec ces mots. Auditer, écouter. Mais avant d'écouter le Christ, il faudrait encore ôter les bouchons qui pourraient obstruer nos oreilles intérieures. Ces bouchons, ce sont souvent nos propres pensées, nos propres jugements, nos émotions envahissantes, bref, notre tendance à nous écouter nous-mêmes avant d'écouter le Christ. Si nous avons cette tendance donc à nous écouter nous-mêmes, c'est une tendance moderne, bien sûr, tendance à croire que nous sommes libres lorsque nous suivons notre propre jugement, nos propres raisonnements, nos impressions, nos désirs. Mais cette attitude ne nous ouvre pas à la vérité. Elle nous enferme en nous-mêmes. Il faut donc commencer par ôter ces bouchons, si nous voulons vraiment écouter le Christ, notre Seigneur. Nous devons donc être conscients de cette tendance naturelle, nature blessée par le péché originel, bien entendu, à n'écouter que ce qui nous conforte. Au lieu de chercher objectivement la vérité, nous filtrons les informations selon nos propres idées. Nous filtrons, et tout le monde le fait, je le rappelle, c'est une tendance naturelle, effectivement. Nous utilisons mal notre intelligence à partir de nos préjugés. Et donc, on fait mal de l'histoire, on fait mal de la théologie, de la philosophie, on analyse mal les événements. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on passe tout à la moulinette de notre propre jugement. C'est ce qu'on appelle le subjectivisme. Et ce subjectivisme, il est ancien. C'est la base même du sophisme, de la sophistique. On attribue un des partisans, évidemment, de cette fausse philosophie, Protagoras, ces paroles. L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. Chacun d'entre nous mesure ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mal, sans finalement de véritable référence extérieure, en restant enfermé en soi-même, sans confronter ce jugement, bien sûr, au jugement de Dieu. Chacun, aujourd'hui, se fabrique une opinion sur tout, sans référence véritable extérieure, y compris en matière de foi et de morale. Mais bien chers frères, en refusant d'écouter une vérité plus grande que nous, nous nous enfermons dans notre propre subjectivité. Et cela est dangereux. Donc faisons attention, notre intelligence, notre jugement sont faillibles. Et souvent, malheureusement, dans le monde actuel, et les personnes en particulier qui se convertissent, qui n'ont pas eu cette transmission de la foi catholique, eh bien, sont particulièrement vulnérables à cette mauvaise mentalité. Deuxièmement, le problème de la subjectivité, c'est aussi le problème du ressenti. Dans la culture contemporaine, ce que l'on ressent est souvent considéré comme la vérité absolue. Combien de fois n'entendons-nous pas chaque jour ce genre de paroles ? Si je ressens quelque chose, alors c'est vrai. Si une chose me fait du bien, c'est qu'elle est bonne. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ce qui me met mal à l'aise, par contre, est forcément mauvais. Mais c'est mauvais pour moi, ça peut être bon pour toi. Chacun sa vérité, après tout. Chacun son propre sentiment. Le problème, c'est que les émotions, bien entendu, ne sont pas des guides sûrs. Elles varient selon notre humeur, selon les influences extérieures, selon les circonstances. Ce qui nous semble une évidence aujourd'hui pourra nous paraître absurde demain. Ce que je considère comme me faisant du bien aujourd'hui, je le considérerai comme me faisant du mal demain. Il n'y a plus aucune stabilité sur la base de cette sentimentalité. Et si nous suivons seulement nos émotions au niveau religieux, évidemment, nous risquons de confondre l'élan de l'âme avec une simple excitation passagère. La foi devient un sentiment religieux, fluctuant, au lieu d'être l'adhésion stable à la vérité de Dieu. C'est précisément, mes bien chers frères, la foi moderniste. L'homme moderne se laisse guider par ses sentiments, ses émotions, et non plus par l'objectivité. Bien sûr, nous voyons que ça ne mène à rien. Enfin, troisième élément du subjectivisme, nous avons dit que le mot hébreu, schéma, écoute, implique non seulement l'écoute, l'ouverture, mais implique la pratique de ce qu'on a entendu. C'est une écoute active qui met en mouvement. Et donc, si on s'écoute soi-même, sa subjectivité, ses jugements propres, il découle de là qu'on va se fabriquer sa propre moralité, ou plutôt sa propre immoralité, en réalité, si on se base sur non pas la subjectivité, mais l'objectivité. Si nous faisons de notre ressenti la norme du vrai et du faux, alors la morale devient subjective. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité qui va définir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien pour l'un peut être mal pour l'autre, et vice-versa. Chacun définit sa propre vérité. C'est ainsi que le relativisme moral va s'installer. Et ce relativisme ne conduit pas à une grande liberté, mais plutôt à la confusion qui a servi parce que nous devenons le jouet de nos propres sentiments, de nos propres émotions, ou de celles des autres, parce que c'est un élément que nous pourrions creuser davantage, mais pourquoi il est aussi facile de manipuler les gens aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'ils sont enfermés dans leur subjectivité, enfermés dans leurs propres sentiments, dans leurs propres émotions. Et souvent, ils essayent de sortir de là par un autre enfermement, hein, celui, par exemple, de toutes les mentalités complotistes qui, souvent, ne sont pas du tout conformes à la vérité enseignée par notre Seigneur et à la vérité enseignée par l'Église, qui ne sont pas conformes à un usage sain de notre intelligence. Pour revenir à cette question de la morale, tout devient subjectif, on définit soi-même ce qui est bien et mal, tout devient fluctuant, c'est ce qui se passe aussi dans les législations. L'homme est la mesure de toute chose, il n'y a pas de référence supérieure, donc c'est aux hommes de définir ce qui est bien et mal. Et puisque c'est la majorité qui est censée faire la vérité, eh bien, c'est la majorité qui va définir ce qui est bien et ce qui est mal. Toutes les lois immorales vont découler, en fait, de cet état d'esprit, de ce subjectivisme. Même la religion, bien sûr, comme le dit Saint Pidis, ne devient qu'un sentiment qui naît du besoin du divin dans l'âme. Et en fait, tous nos contemporains, basiques, j'oserais dire, sans mépris, parce que chacun a son histoire et chacun est influencé par cette mentalité, ils vont croire que nous croyons parce que ça nous fait du bien, alors que c'est faux. Nous croyons parce que il faut croire, parce que il faut adhérer à Dieu, parce que le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». On a une morale vraiment subjectiviste. On pourrait donner, bien sûr, de nombreux exemples. L'exemple de la morale au niveau de la sexualité, bien entendu, même au niveau des chrétiens. Qu'est-ce qui reste des règles morales, des relations intimes entre hommes et femmes, que ce soit avant le mariage, que ce soit pendant, évidemment, le mariage? On s'en fiche de ce que nous dit l'Église, de ce que nous dit le sixième commandement, de ce que nous disent les moralistes. On minimise, selon ses propres idées, ce genre de péché comme les autres péchés. On se donne des justifications, mais bon, avant de se marier, il faut peut-être essayer quand même, etc. On est en plein dans la subjectivité, et donc dans la ruine de la vie chrétienne. Il faut bien le comprendre, et il faut rectifier nos pensées par rapport à cela. Comment rectifier nos pensées ? Eh bien, c'est ce que nous dit Dieu le Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écouter le Christ, c'est sortir de soi-même pour accueillir une vérité plus grande, qui n'est pas limitée à notre petit monde, qui n'est pas fluctuante selon nos émotions, nos passions, nos désirs. Là où le subjectivisme va disperser, la parole du Christ unifie. Là où l'émotion égare, la foi éclaire. Là où le relativisme enferme, la vérité va nous libérer. Il faut donc non pas se laisser enseigner, guider par nous-mêmes, par nos propres jugements, mais se laisser guider par le Christ. Alors que notre tendance naturelle est de filtrer ce que nous entendons, de filtrer la vérité, et même les vérités chrétiennes, selon notre propre jugement, le Christ nous invite à la docilité. Donc lui-même le dit, écoutez-moi, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est donc pas en nous repliant sur nos propres idées que nous trouvons la vérité, mais en recevant l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez, tout ce temps du carême est un temps d'enseignement particulier de la part de l'Église à travers ces messes qui nous conduiront à la Semaine Sainte. Nous recevons donc l'enseignement du Christ et de l'Église. Il faut une humilité profonde. Malheureusement, combien de fois j'entends de fidèles, évidemment qui ont déjà quelques années d'ancienneté dans la conversion, mais pas tant que ça, dire qu'ils n'ont plus besoin de catéchisme, plus besoin finalement d'être enseignés, qui passent au crible de leur jugement toutes les paroles entendues en sermon. Après, on a vu pire, hein, évidemment, ceux qui font le débrief avec leurs enfants. Oh, qu'est-ce que le Père Joseph a dit de travers dans son sermon? Là, bien entendu, on touche à des niveaux inouïs de subjectivisme, d'irrespect, bien entendu. Donc, il faut recevoir les enseignements de l'Église. Alors, je ne suis pas l'Église, certes, mais c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Il faut recevoir ces enseignements avec humilité, les paroles de Dieu avec humilité, lire les saints évangiles avec humilité, les recevoir dans notre cœur et les mettre en pratique. C'est l'attitude de Notre-Dame quand elle reçoit les paroles de Dieu à travers l'ange. Nous fêterons bientôt cet événement, le jour de l'Annonciation. Elle ne dit pas autre chose, fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon votre parole. C'est l'exemple même de l'écoute, la très sainte Vierge Marie. Donc, écoutons l'enseignement de notre Seigneur, écoutons l'enseignement de l'Église. Ne pas aller chercher midi à 14h dans tel ou tel auteur, souvent douteux, dans tel ou tel pseudo-révélation. Non, la parole solide, la parole de Dieu, elle est dans la Sainte Écriture et dans la Sainte Écriture telle qu'elle est entendue, développée, définie à travers les dogmes, les définitions de l'Église. C'est là qu'il faut chercher la vérité, pas ailleurs. Bien sûr, les théologiens catholiques développeront cette vérité. Il faudra s'appuyer sur eux, spécialement sur saint Thomas d'Aquin, qui est le docteur de l'Église par excellence, comme le rappelait le pape Léon XIII. Et donc faisons attention à tout ce qui circule aujourd'hui et toutes les mauvaises interprétations même de la foi. Par rapport à nos émotions, il en est de même. Face à la tyrannie du ressenti et au côté fluctuant, instable qui en découle, la foi, elle exige une adhésion qui est ferme, qui est solide, qui est permanente, alors que nos émotions ont tendance à vaciller. D'ailleurs, le Christ ne nous dit pas « ressentez ceci, ressentez-moi ». Il dit même à Sainte Marie Madeleine, après sa résurrection, « ne me touche pas, ne me sens pas, crois en moi, Croyez en Dieu, dit notre Seigneur, croyez aussi en moi. Dieu, bien sûr, c'est toujours une traduction de Dieu le Père. Ça ne veut pas dire que le Fils n'est pas Dieu, bien entendu. Saint François de Sales, grand auteur spirituel, grand docteur de l'Église, évidemment, notamment contre le protestantisme, nous disait déjà ceci, ne recherchez pas Dieu dans la douceur sensible, car il ne s'y trouve pas toujours, mais cherchez-le dans la foi pure. On voit ce travers dans les disciples, Saint Pierre, lors de la transfiguration, Saint Pierre qui parle au nom de ses deux compagnons, Saint Jacques et Saint Jean, il ressent une grande joie. Il nous est bon d'être ici avec vous, et on pourrait l'entendre de façon tout à fait spirituelle et comprendre que c'est légitime avec cette magnifique transfiguration, le Christ, notre Seigneur, qui apparaît glorieux avec les représentants de la loi et des prophètes, Moïse et Élie. Il est bon pour nous d'être ici. Alors, le problème, c'est qu'ils veulent s'arrêter à cette expérience sensible. Faisons des tentes, campons ici. Mais non, l'expérience sensible qu'ils vivent n'est pas destinée à être permanente. Ça arrive que notre Seigneur nous donne des consolations sensibles, mais ce n'est pas ce qui doit fonder notre foi. Ce qui doit fonder notre foi, c'est l'écoute du Christ et de son Église. Enfin, la question de la morale, à la morale subjectiviste, qui en fait est l'esclave des passions, l'esclave de fausses conceptions et qui ne mène à rien de bon, ni dans la vie personnelle, ni dans la vie familiale, ni dans la vie sociale. Cela mène à la ruine de la vie spirituelle personnelle, à la ruine de la vie familiale, à la ruine de la vie sociale, bien entendu, de ruiner la morale objective. Schéma, nous avons dit. Écoute. Écoute, c'est mets en pratique. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir la foi, il ne s'agit pas seulement d'écouter d'une oreille distraite, il faut encore obéir. Et ça nous renvoie vraiment au schéma Israël. Écoute, Israël. Le Seigneur est le Seigneur ton Dieu et viennent tous les commandements de Dieu. Celui qui m'aime garde ma parole, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à chaque fois, il y a ce lien intime entre l'écoute de notre Seigneur et le fait de mettre en pratique. Et le bon Dieu nous donne justement ce qu'il faut faire. Il nous le dit. Il nous le dit à travers ses commandements dans l'Ancien Testament, qui sont précisés dans le Nouveau Testament. Ce que nous avons à faire, nous le savons. Et pour tout ce qui est un peu plus obscur, l'Église, au cours des siècles, l'a précisé. C'est pour ça qu'il faut obéir filialement à la Sainte Église catholique. Et spécialement, bien sûr, en ce qui concerne la foi et les mœurs. Parce que quand elle enseigne sur la foi et les mœurs, elle est infaillible quand elle enseigne à toute l'Église. Mais même, comme le dit le Concile du Vatican, donc Vatican I, l'autre n'en tient pas compte, par convention, bien sûr, pour en parler, on parle de Vatican II, mais ce n'est pas un véritable concile de la Sainte Église. Vatican I nous dit que non seulement sur les questions de foi et de mœurs, mais sur toutes les questions disciplinaires, il faut obéir à l'Église. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est ce qui va nous préserver de l'illusion de nos jugements propres. Ça nous préserve de l'illusion de nos jugements propres. On le voit particulièrement pour la Sainte Liturgie. On ne suit pas notre jugement propre, on suit les réformes qui ont été instituées par l'Église. Parce que l'Église est meilleur juge que nous, surtout en l'absence aujourd'hui d'autorité. Dieu le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce fils bien-aimé a dit à ses apôtres, et donc à travers ses apôtres à l'Église, hiérarchique, qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise. Si nous écoutons l'Église, eh bien, donc les véritables autorités de l'Église, quand on en avait, et leur autorité perdure après leur mort à travers toutes les lois que ces autorités ont instituées, eh bien, cela nous préserve de l'illusion des jugements personnels sur ce qu'il convient mieux, soi-disant, de faire ou de ne pas faire, que ce soit dans la Sainte Liturgie ou ailleurs, dans les autres domaines. Voilà comment on se préserve, mes bien chers frères, du subjectivisme. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Je le répète, écoutez le Christ, ce n'est pas s'enfermer dans ses propres jugements, mais recevoir humblement cette vérité qui nous dépasse. C'est ne pas suivre aveuglément nos émotions, mais fonder notre vie sur la foi, même quand le ressenti est absent. C'est ne pas décider du bien et du mal selon ce ressenti ou ses propres jugements, mais accueillir l'enseignement du Christ et de son Église comme la seule voie vers la vraie liberté. Tout l'enjeu du carême et de notre vie chrétienne est là, mon cher frère. Ne plus nous écouter nous-mêmes, mais écouter le Christ. C'est lui qui nous conduit vers la lumière. Mais pour cela, il faudra descendre de la montagne du Tabor et le suivre jusqu'à la croix. Alors ne nous laissons pas distraire par nos propres pensées, par nos sentiments changeants, par nos jugements incertains. Écoutons le Christ, car il est la vérité, la voie et la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.